13 août 1960, 13 août 2020, 60 ans déjà que la République centrafricaine est indépendante. Que dire aujourd'hui de cette indépendance? Est-ce que le pays est vraiment indépendant? Quel bilan faire de ces 60 ans? Le positif, le négatif? Qu'est-ce qu'il faut changer? Comment améliorer? Autant de questions dans ce débat et vous êtes dans Patara, l'émission politique de Radio Ndeke Luka. Beaucoup de points à aborder, politique, économie, société. Nous recevons sur le plateau M. Fidèle Ngwandika, ministre conseiller spécial du président de la République. M. Ngwandika, bonjour.
Bonjour.
M. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Vous étiez aussi ministre de la Défense nationale à l'époque de la transition. M. Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Je crois, l'an dernier également, vous avez participé à cette émission de Patara, toujours sur l'indépendance de la République centrafricaine. Mais cette année, c'est avec d'autres co-débatteurs. M. Firmin Zopongele, secrétaire général du groupement syndical des travailleurs de Centrafrique, GSTC. M. Zopongele, bonjour.
Bonjour, Rudy.
Il y a aussi la jeunesse dans ce débat, mais et surtout la femme. C'est la présidente du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, Madame Pamela Audrey-Diron. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
À la technique, c'est le service de David Bema et Serge Yadendi. Au centre du débat, je suis Rodrigue Leroy-Binga. Je bénéficie de l'appui de Claire Ndombeya Samba et Stéphane Flemalé. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Patara sur Radio Ndeke Luka. Bienvenue. Bonjour chez vous.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif de ces échanges, ce reportage de Christ Roy Jordan Badimbe, il a rencontré quelques témoins vivants de l'indépendance de l'RCA.
À un moment donné, quand Dako a prononcé le discours de l'indépendance, alors le drapeau français qui était en haut descendait, on tirait en bas. Et le drapeau centrafricain montait, cette image m'est restée.
Ancienne colonie française connue sous le nom d'Ubangi-Chari, la République centrafricaine accède à l'indépendance le 13 août 1960. Monseigneur Joseph Maringui, convié à l'époque au palais présidentiel, se souvient encore de ce moment historique.
Le président Dako nous avait invités. C'est au palais que la cérémonie se déroulait. Je vous avoue que ce soir-là, il y avait du monde au palais pour attendre la proclamation de notre indépendance.
La joie, l'émotion, mais il y a aussi le doute et la crainte. Monseigneur Joseph Maringui.
C'était la joie comme aussi le doute. Beaucoup pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils doutaient de la gérance de notre pays. Certains disaient, est-ce que vraiment le Zoubanguien, devenu aujourd'hui centrafricain, est-ce qu'ils vont faire exactement comme les Blancs?
Un peu plus de 5 ans après la proclamation de l'indépendance, le jeune État, la République centrafricaine, plonge dans sa première crise d'envergure. Le coup d'État de Jean Bedel Bokassa le 1er janvier 1966. Même si le poutiste qui se proclamera empereur en 1976 arrive à faire découler le pays sur plusieurs plans, son époque est aussi couronnée de détresse et d'incertitude.
Ce que je loue quand même à Bokassa, c'est que quand il était au pouvoir, on travaillait. C'était un moment où les gens travaillaient beaucoup. On n'avait pas besoin de courir en France ou ailleurs pour avoir l'argent. Mais c'était une triste époque. Parce que nous étions revenus en arrière. Notre pays n'est pas un pays émergent à ce moment-là.
Omboadé Félix avait 9 ans le jour de la proclamation de l'indépendance. Pour lui, il y a une nette différence entre l'époque post-coloniale et nos jours.
Dans notre temps, c'était le respect envers les parents, que ce soit pas ton papa ni ta maman, mais tu dois obéir à n'importe qui se présente. Et ça a été bon. Il n'y avait pas de provocation, de division de race, il n'y en avait pas. Maintenant, là, il y a la division.
La crise sociale de 1979 qui entraîne la chute de Jean Bedel Bokassa, le coup d'État de 1981 marque le début d'un cycle de crise militaro-politique à répétition. Conséquence, 60 ans après la proclamation de son indépendance, la République centrafricaine affiche un tableau sombre sur le plan du développement socio-économique et est à la traîne face à ses États frères de la sous-région de l'Afrique centrale.
Merci à vous, Christ Roy Jordan Badimbe. Dans ce reportage, ce qui peut retenir l'attention, on faisait monter le drapeau centrafricain et descendre le drapeau français, ce qui veut dire que la République centrafricaine était en train de prendre en main sa destinée. Mais aujourd'hui, 60 ans après cette indépendance, quel sentiment ressentez-vous, M. Fidèle Ngwandika?
Eh bien, merci beaucoup, M. journaliste. En 1960, j'étais déjà éveillé.
Si vous voulez m'appeler Rodrigue.
Et nous sommes aujourd'hui en 2020, donc 60 ans se sont écoulés. Un jour avant l'indépendance, nous étions un territoire. On nous appelait un territoire membre de l'Afrique équatoriale française. On était comme un département, une petite province de la France. on n'avait pas la même monnaie que le métropole. On était des colonisés. Et donc, un jour après, c'est-à-dire le 13 août 1960, nous sommes devenus indépendants. Et c'est le président David Ako qui a proclamé cette indépendance. Il faut que les Centrafricains savent la signification de l'indépendance. Nous n'étions pas une république. À partir du 13 août 1960, même si Boganda avait déjà proclamé la République centrafricaine le 1er décembre 1958, mais on est devenu réellement la République centrafricaine à cette indépendance. Donc, qui dit une république dit gestion de la chose publique. Il faut une constitution. Il faut des institutions dignes de ce nom. Il faut des élections. Je veux parler d'élections présidentielles.
Très brièvement, votre sentiment aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez fier de cette indépendance? Est-ce que le centrafricain, vous, M. Ngwandika, vous êtes fier et indépendant aujourd'hui?
Moi, je vous redis encore, dans une république, il faut des élections. D'accord? Élections présidentielles, élections législatives, élections municipales. Et donc, il y a eu des élections. Il y a eu un président qui a été élu. Quelques 2 ans après cette indépendance. Et donc, c'est un pays organisé après l'indépendance. Les colons sont partis, la gestion a été confiée aux Centrafricains, président de la République, ministre, ainsi de suite. Et donc, ceux qui ont vécu cette période de 1960 jusqu'à 1966, ils sont là. Je fais partie de ces gens-là. Nous étions heureux. On allait à l'école. On était 28 par classe. Nous avons des maîtres et des professeurs qui était bien achalandé. Nous allions en colonie de vacances. C'était à peu près une copie conforme de ce qui se passait dans le métropole. Aujourd'hui, en 2020, au lieu de 28 personnes par classe, il y en a 280 par classe. Il y avait des hôpitaux à l'époque. Les médicaments étaient gratuits.
Si on, aujourd'hui, si bien, il faut vous êtes en train de payer faire une comparaison entre l'ancienne époque et l'époque actuelle. Il y a vraiment une différence entre l'époque d'après, juste après l'indépendance, et l'époque d'aujourd'hui, de 2020.
Non, on ne peut pas faire une comparaison. L'époque de l'indépendance, c'est-à-dire juste après l'indépendance, je vous dis que pendant les 6 ans qui ont suivi cette indépendance, les gens vivaient très bien. Les gens allaient à l'école. Il y avait le salaire. Les gens étaient soignés gratuitement. Il n'y avait pas trop de grèves comparé à aujourd'hui. Et si vous voulez, mon sentiment, je dis que le monde évolue. Oui. Et donc, je peux vous dire que la République centrafricaine est certes indépendante, mais elle n'a pas toute la plénitude de cette indépendance.
Monsieur Joseph Bindoumi, vous êtes également de l'ancienne génération. Vous avez également vécu cette indépendance de la République centrafricaine. Aujourd'hui, comment vous ressentez-vous en tant que centrafricain de ces 60 ans d'indépendance?
Oui, je voudrais vous dire très honnêtement que la République centrafricaine fête ses 60 ans d'indépendance, mais ça donne l'impression de 60 ans de régression dans l'histoire de notre pays. C'est-à-dire, si je peux être résumé, c'est que les Centrafricains vivaient mieux en 1960 et aujourd'hui, nous sommes en 2020, les Centrafricains vivent moins qu'en 1960. Donc, les 60 années n'ont pas apporté grand-chose à la République centrafricaine et des explications seront données plus tard.
Nous avons également M. Firmezo Pongele qui est secrétaire général du groupement syndical des travailleurs de Centrafrique qui défend les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, est-ce que la situation du travailleur centrafricain depuis 60 ans jusqu'à aujourd'hui a évolué? Quel sentiment avez-vous aujourd'hui de cette indépendance de la République centrafricaine?
Merci Rodrigue, je pense que le temps ne nous aura pas permis de vraiment de beaucoup nous apesantir, de beaucoup donner des explications au peuple centrafricain, aux travailleurs qui nous écoutent. Mais je crois, mon sentiment, c'est comme ce que le président Bindoumi venait de dire, c'est un constat d'échec. Mais il faut situer les périodes, parce que le ministre conseiller Ngwandika avait bien précisé, les 10 ou les 15 premières années après l'indépendance, les gens vivaient dans la prospérité. La population assurait le bien-être, c'est-à-dire que les gens pouvaient manger 3 fois. Les gens pouvaient se nourrir, les gens pouvaient se vêtir. Donc, nous allons rentrer dans les débats, mais c'est un constat d'échec. Le vocabulaire maintenant qui est en train de se dire partout, et sur ce plateau, nous pouvons converger. On ne parle plus de la construction de notre pays, mais de la reconstruction de notre pays.
Pour vous, c'est
tout est à reconstruire. Voilà le mot. Quand vous voyez dans tous les états-majors, que ce soit les partis de politique d'opposition, que ce soit la majorité présidentielle, la RCA est à reconstruire.
Tout est à reconstruire, donc, c'est un constat d'échec, oui. Madame Pamela Audrey-Diron, vous représentez la jeunesse, c'est la nouvelle génération, vous n'avez pas partager ce moment d'indépendance, mais vous êtes aujourd'hui indépendante comme tous les Centrafricains. Quel constat faites-vous ou comment évaluez-vous les 60 ans d'indépendance de la République centrafricaine aujourd'hui?
Merci Monsieur Rodrigue. Vous venez de dire que je suis indépendante. Alors, je ne sais pas où est cette indépendance pendant que aujourd'hui nous fêtons nos 60 ans et que nous sommes encore dans le noir. Où est cette indépendance pendant que aujourd'hui l'eau, comme on aime bien le dire, qui est la source de la vie, est devenue une denrée rare? Où est cette indépendance aujourd'hui pendant que la sécurité et la vie des jeunes centrafricains sont en danger? Aujourd'hui, c'est un sentiment de tristesse de voir que depuis 60 ans, depuis 3 à 4 jours, nous, à travers les réseaux sociaux, nous voyons les images qui circulent des années précédentes aujourd'hui, qui circulent sur les réseaux sociaux avec des belles vues, avec la lumière qui illumine la ville à l'époque. Aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas profiter également de cette opportunité? Pourquoi cette jeunesse, elle est sacrifiée aujourd'hui? Pourquoi moi, en tant que jeune centrafricain, je dois fêter? Qu'est-ce que j'ai à fêter? La tristesse? La désolation? Aujourd'hui, et je crois que la situation a été brossée ici par le conseiller. À l'époque, dans une salle de classe, on retrouve 28 élèves. Aujourd'hui, on a plus de 200 élèves par classe. On a combien d'universités pour notre pays aujourd'hui? Depuis 60 ans, aujourd'hui, on a combien d'hôpitaux qui permettent à ce que les jeunes centrafricains...
À vous entendre parler, rien n'a marché. Vous également, vous brossez un constat aussi amer, un échec, oui. Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'origine de cet échec-là que la République centrafricaine vit aujourd'hui après ses 60 ans? Monsieur Fidel Mwandika, dans vos premiers propos, vous avez parlé de comment la belle époque que la République centrafricaine vivait pendant les premières années après l'indépendance. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cet échec, cette régression aujourd'hui après 60 ans d'indépendance?
Mais la régression de la République centrafricaine, comme vous le dites, parce que quand on dit régression, il faut regarder le IDH de la République centrafricaine depuis 1960 jusqu'à 2020.
Oui, l'indice IDH, du développement humain.
L'indice du développement humain. Oui. Ça ne fait que croître légèrement, mais ça croît. Donc, moi, je ne vais pas parler de dégression, mais je dis que le pays a été mal géré, mal gouverné. En 1960, nous avons eu un président, Feu David Dabo, qui a conduit le pays de manière pseudo-démocratique, puisqu'il y a eu des élections, mais des élections taillées sur mesure. C'était en quelque sorte un coup d'État constitutionnel à l'époque pour écarter un candidat puissant, Feu Abel Bumba. Oui. Et donc, jusqu'au 30 décembre 1965, le pays était plus ou moins géré de manière démocratique, mais avec un seul parti.
Le Messad.
Le Messad. Oui. Et donc, tout commence à se détériorer à partir de la prise de pouvoir par la force. L'introduction de la dictature dans le pays par les putschistes qui se sont succédés à la tête du pays. Donc, un président de la République, c'est celui qui incarne l'unité nationale. S'il n'est pas éloquent, s'il ne peut pas gérer le pays comme il se doit, il n'a pas de charisme, c'est comme un mauvais berger et son troupeau est dispersé. Et donc, ce sont les coups d'État à partir de Jean-Bédel Bokassa, André Kolimba, Bozizé plusieurs fois, que ce pays est tombé plus bas. Et donc, il n'y a pas une gestion orthodoxe de la chose publique. Les gens qui font des coups d'État, ben, ils viennent avec une armée qui n'est pas une armée républicaine, une armée taillée sur mesure. Parfois, ils font semblant de faire des constitutions taillés sur mesure, ils prennent le pouvoir à coup de sang, et puis après, ils font tout pour se régulariser en faisant des élections truquées pour montrer à la face de l'opinion nationale et internationale que ce sont des démocrates, mais quelque part ce sont des loups. C'est à cause de ces putschistes multirécidivistes que notre pays est dans ce bourbier en ce moment.
Vous parlez de coups d'État comme l'une des causes de la situation actuelle de la
République. La mauvaise gestion qui suit les coups d'État aussi.
Également, oui. Monsieur Joseph Binoumé, vous partagez le même avis?
Non, nous sommes sur une table pas pour nous partager les mêmes avis. Nous avons un sujet sur lequel nous devons échanger. Donc, nous ne partageons pas
systématiquement. S'il y a d'autres causes, oui.
Oui, nous disons que le débat que vous soulevez est un débat très important. parce qu'il concerne effectivement l'histoire de la République centrafricaine. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que notre grande fête se faisait plutôt le 1er décembre au lieu du 13 août. C'était quelque chose qui est dû au fait que la préparation de l'indépendance de la République centrafricaine a suivi un certain nombre d'étapes. Donc, lorsqu'on nous a annoncé le 1er décembre que nous pouvions nous constituer, nous organiser pour être libérés comme État indépendant, l'autorité qui avait la charge de faire toutes les préparations, c'était Barthélemy Bougonda. C'est donc lui qui a préparé l'hymne national, c'est lui qui a conçu le drapeau centrafricain, c'est lui qui a resté
la devise
nationale. Donc c'était lui. Malheureusement, la malchance de la République centrafricaine commence par là. Il va mourir le 29 mars 1959 avant de signer la passation du pouvoir au nouvel État centrafricain. Donc il y a un bémol ici. Et celui qui va venir signer le document pour nous lancer comme État indépendant, ce sera David Dacko. Il le fera le 13 août 1960. Mais la conscience du moment avait été telle que si nous disions que c'est Dacko qui nous a donné l'accession à l'indépendance, nous oublions historiquement celui qui a conçu le drapeau, celui qui a conçu la devise, celui qui a conçu l'hymne. Et donc, on s'est retrouvé avec Dacko qui n'avait pas conçu tout ça. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit qu'il fallait admettre que nous fêtions le 1er décembre pour que nous ayons en tête et en permanence notre président fondateur. C'est-à-dire que si nous disons que nous avons eu l'indépendance seulement en 1960, nous oublions quelque part Bougonda comme président fondateur de la République centrafricaine. Et donc, nous sommes engagés dans cette voie-là. Maintenant, on va revenir sur des éléments simples. Les éléments simples, c'est que Bougonda nous a donné la devise de la République centrafricaine. Unité. Le problème, c'est que en 2020, est-ce que nous sommes unis? La réponse, c'est que le pays, aujourd'hui, en coupe réglée, nous ne sommes pas unis. Dignité. Est-ce qu'aujourd'hui, le centrafricain, quand il se promène à l'intérieur comme à l'extérieur, peut se taper la poitrine comme étant indigne centrafricain? La réponse, c'est qu'en 2020, malheureusement, nous ne pouvons pas taper la poitrine comme étant indigne centrafricain. Et après, c'est le travail. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on a des produits nationaux bruts, des indices de développement durable, etc. Tout ce qu'on veut que citer. Mais aujourd'hui, on se rend compte, non seulement le centrafricain n'a plus la possibilité de travailler, puisque nous produisons par la voie de l'agriculture, et là où se trouvent les groupes armés, nos plantations ne marchent pas, que ce soit pour le coton, dans les zones où on cultive le coton, que ce soit pour le café, que ce soit l'arachide. Aujourd'hui, là où nos populations de Luampendé, de Luam, de la Nana Gribidji, de la Kemo, de la Waka produisaient le coton et des produits industriels, aujourd'hui, nous ne travaillons plus tout ça. Et donc, si vous faites le constat, 60 ans après, nous avons régressé par rapport à 1960.
Pour vous paraphraser, c'est le fait qu'on a abandonné la devise de la République centrafricaine, unité, dignité, travail. C'est ce qui nous a mis dans cet état actuel. Monsieur Firmin Zopongele, comment expliquer aujourd'hui? On avait pris un très bon départ durant les premières années de l'indépendance, mais comment expliquer aujourd'hui que la RCA se trouve dans cette situation actuelle?
Non, je pense qu'il faut situer les choses dans leur contexte. D'aucuns disent que c'est des questions institutionnelles. D'aucuns disent que la démocratie, c'est-à-dire qu'avec l'accession de Dacko au pouvoir, avec toutes les institutions, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale, la justice, l'armée, mais il y a eu quand même la prospérité. Mais moi, je pense qu'aussi, ça, il faut le dire honnêtement parce que les gens nous écoutent, avec le coup d'État de Bokassa
en 66,
aujourd'hui, les gens reconnaissent que c'est une dictature, mais qui a favorisé le développement de notre pays. Il faut avoir la force de reconnaître. Bokassa, il avait fait asseoir la gouvernance. Et ça, c'est le procureur qui va me dire le contraire. L'impunité était zéro. C'est-à-dire, vous détournez 101 000 francs, vous êtes douanier, vous êtes du trésor, vous êtes des régies, vous êtes receveur de poste, votre place est en prison. Et puis, on vous arbore la tenue de prisonnier, vous devez aller faire casser les pierres au niveau de Bouyrab. Donc, Bokassa était rigoureux dans la gestion. Et les choses florissaient. Le dégringolade. C'est comme aujourd'hui, il y a toujours des meilleurs présidents. Tous nos présidents sont bons, mais c'est les entourages. Qui a soufflé dans les oreilles de Bokassa pour prendre le chemin de couronnement? C'est là, les dégringolades, le problème a commencé parce que l'économie était florissante. Il y avait le coton, il y avait le café, il y avait tout. Les gens étaient mieux payés parce que lui, il était un bâtisseur. Tout ce que lui, il a construit aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui que les gens ont bradé. L'université, c'est lui qui a créé. L'électricité, tout ça, etc., c'est Bokassa. Donc la dictature éclairée nous a profité. Ce n'est pas question de la démocratie, parce que vous savez, On peut habiller, on peut avoir des institutions, mais qui se comportent exactement comme une dictature pour priver les libertés, pour priver les trucs, etc. Mais moi, je pense qu'il faut situer les choses à leur temps. Et moi, je pense que ce qui nous intéresse plus, c'est comme on le dit, c'est sur le plan social, sur le plan du bien-être. Ces deux époques-là, ça, il faut le reconnaître, je le dis. Les Centrafricains sont en train de m'écouter. Bokassa, dans cette dictature, a su ce qu'on appelle la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'impunité zéro. Tout ce qui est de la mauvaise gestion, tout ce qui est détourneur, tout ce qui est gâchis, Bokassa, ne laissez pas l'occasion, les gens sont mis sous verrou. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la question fondamentale est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons pris de retard? La réponse est là, c'est la malgouvernance, c'est l'exclusion, c'est l'injustice sociale. Okay. C'est ça qui nous a entraînés maintenant dans cette situation d'impasse.
D'accord, avant de revenir vers vous, Madame Pamela Rodrigue de Rome, Monsieur Fidel Ouandika, vous étiez en train de dénoncer le coup d'État, vous l'avez dénoncé, mais à l'époque de Jean-Bédel Bokassa, comme vient de l'expliquer le secrétaire général du JSTC, c'était une période d'émergence de la République centrafricaine et elle s'imposait sur la scène internationale.
Il ne l'a pas vécu et je regrette ici l'assertion de mon grand frère Bindoumi qui ignore les causes. Vous avez posé une question précise. Quelles sont les causes de notre déconfiture? Et les causes sont patentes, les causes sont claires. J'ai bien dit qu'il s'agit d'une question de leadership. Le problème de la RCA, mon grand frère Bindoumi, est celui d'un leadership déficient. De Dako jusqu'à Dotodia. C'est la déficience totale.
Mais on avait quand même noté une période d'émergence.
Il n'y a pas eu de période d'émergence entre 1966 et la prise de pouvoir de Kolimba, en 1981. D'accord ? Donc, entre 1966 et 1981, le pays a sombré. Nous avons la représentante ici de la jeunesse. Le 18 ou le 19 janvier, cette dame qui symbolise la jeunesse aujourd'hui et toute la jeunesse centrafricaine pleure des enfants qui ont été massacrés. On appelle cela la journée des martyrs. Ça ne vous inspire rien. La République centrafricaine de Boganda. Monsieur Bindoumi vient de nous éclairer en disant que Boganda, c'est lui qui était la cheville ouvrière de la République centrafricaine. On le sait, mais c'est Dako qui a donné l'indépendance. Il a parlé du 1er décembre. Pourquoi on fête le 1er décembre? Parce qu'on avait fait le défilé du 13 août. On l'a fait deux fois. Après, les opposants de l'époque, y compris Ngumba et les autres, et ça c'est l'histoire, je vous le dis. Il faut que les Centrafricains comprennent cela. Ils ont dit à Dako, ce n'est pas vous qui nous avez donné l'indépendance, c'est Boganda. Exactement comme ce que vient de dire M. Bindoumi. Alors, Dako était obligé, il était acculé. Il a pris un décret pour déclarer le président Boganda père de la nation. C'est par décret. Ça existe encore dans les archives. Et c'est un autre décret qui dit, ok, on ne fait pas le défilé du 13 août, on fait le défilé du 1er décembre en la mémoire de Boganda. Mais Bokassa est venu détruire tout ce que Boganda fait. La RCA est devenue ECA. Bokassa est venu bannir cette République centrafricaine en proclamant l'Empire centrafricain. ECA au lieu de RCA. Et on était en voie de changer l'hymne national. Il y avait déjà l'hymne de l'Empire que les enfants chantaient. Il a même changé le Zokwezo de Boganda avec Zoaekezo. Vous voyez? Donc, c'est Bokassa qui a été le premier artisan de la destruction de la République centrafricaine. Nous étions devenus une république bananière. Il peut appris un empire bananier, si vous me permettez le terme. Nous étions la risée du monde entier.
Par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, M. Femezo Pongel, bon, vous voulez réagir, oui, très rapidement avant de donner la parole.
Je réagis. Moi, je dis, je suis dans ma position sur ce plateau. La question qui nous intéresse au plus haut niveau, c'est la question sociale. C'est-à-dire que c'est le bien-être de la population. Pendant ces différents régimes, nous sommes en train de faire un peu de diagnostic. Il faut que nos éditeurs qui nous écoutent savent. Il ne faut pas qu'on puisse tronquer la vérité. Bokassa, à une époque, comme on le dit, je l'ai dit, de 1966 à 1975, Bokassa a essayé de construire ce pays-là, de bâtir ce pays-là. Les faits sont là, parlant. Mais aujourd'hui, moi je l'ai dit, au temps de Dako, il y avait la prospérité, malgré que c'est un gouvernement démocratique, mais il y a eu quand même la prospérité. Au temps de Bokassa, qui a fait le coup d'État, il y a eu la prospérité pendant une période, c'est-à-dire de 1966 à 1975. Mais je l'ai toujours dit que c'est les entourages. Bokassa, c'est un visionnaire. Mais qui l'a trompé pour qu'il érige la République centrafricaine en empire? C'est là à partir de 1976 que commencé le déboire, que ont commencé les difficultés de notre pays. Je me suis arrêté là. Et c'est clair, c'est vérifiable ce qu'on vient de dire. Parce que des dizaines de millions, des dizaines de milliards ont été éjectés pour faire ce couronnement-là. Donc c'est là où le problème de Bokassa a commencé.
D'accord,
mais
merci.
Je pense que Bokassa a eu quand même, c'est avec une grande vision, l'opération Bokassa. Et puis Bokassa aussi a à soi la bonne gouvernance.
D'accord, vous merci. Êtes... La question, c'était de voir la gouvernance aujourd'hui après l'indépendance.
Voilà.
Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut changer? Comment le faire? Comment améliorer? C'était ça, hein, le mobile de ces échanges. Madame Pamela Audrey de Rome, comment hein, voyez-vous hein, qu'est-ce qui n'a pas marché après ces 60 ans-là sur le plan social? Comment le quotidien du centrafricain après 60 ans aujourd'hui si on compare aux premières années de l'indépendance?
Donc, je crois que...
C'est vrai que c'est, vous l'avez vécu par l'histoire.
Ouais. C'est difficile, même si je n'ai pas vécu l'histoire, le présent est là. On nous a enseigné, même si c'est très peu enseigné aujourd'hui, l'histoire de la République centrafricaine à la jeune génération, mais nous avons eu l'opportunité de côtoyer des anciens, nous avons eu l'opportunité de faire des recherches et de savoir ce qui, à l'époque, s'était passé et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. Donc moi, je pense que le bilan est macabre. On a aujourd'hui la malgouvernance qui est devenue...
C'est le mot qui revient toujours.
Oui, oui, et malheureusement. Mais c'est ça le nœud du problème. Et si aujourd'hui, après 50 ans, on est là, et pourtant tous les centrafricains, nous le disons tous, mais rien ne se fait pour que ça change. Rien ne se fait à tous les niveaux et partout. Tous nos chefs d'État aujourd'hui. Donc nous avons, et c'est pour cela que je félicite le ministre conseiller, il a reconnu la malgouvernance depuis des années, cela perdure jusqu'à aujourd'hui. On a un problème également de leadership et ça il faudrait qu'on ait ce courage de le dire. Aujourd'hui, nous n'avons pas des leaders patriotiques qui aiment leur pays, qui met en avant le peuple centrafricain. Et donc aujourd'hui, quand chacun qui arrive, chaque gouvernement, chaque État qui arrive, bon... C'est sa famille, c'est son entourage, ce sont ses connaissances. Et au détriment de ce peuple qui a confié ce pouvoir-là, on l'oublie totalement. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un problème sérieux auquel les centrafricains et la jeunesse tout entière doit également se... Parce que c'est pour cela, nous on a beaucoup félicité le ministre conseiller à travers ces multiples vidéos qu'il a enregistrées. Parce que nous avons commencé et nous avons pris conscience de cela pour dire nous on doit changer les choses. Et grâce à ces vidéos, à ces révélations et à leur participation dans la destruction de ce pays, nous on a pris, nous sommes en train de nous organiser pour que...
La jeunesse centrafricaine.
Oui, la jeunesse centrafricaine qui veut voir un Centrafrique nouveau. Un Centrafrique prospère, un Centrafrique où on va voir le pays se développer, où il fait beau vivre, où le rêve des jeunes Centrafricains va une fois se réaliser. Et donc, où il n'y aura plus la corruption, même si au jour d'aujourd'hui, nous sommes contaminés, quand je l'ai dit, nous sommes, parce que c'est une triste réalité. On a une partie de jeunesse qui, malheureusement, les germes qui ont produit nos Oubangais ont produit ces mauvais résultats d'une catégorie. Ce n'est pas tous les jeunes, parce qu'on a les jeunes conscients aujourd'hui qui essayent de tourner la page et qui s'activent pour que les choses s'améliorent, pour que les choses changent. Mais il y a la corruption qui devient monnaie courante, qui devient une habitude avec l'impunité totale. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui on veut que les choses s'améliorent si on parle de détournement, du vol. Ça n'encourage pas. Aujourd'hui, si on veut voir un pays développé, il faudrait bien qu'il y ait des infrastructures. Mais aujourd'hui, rien ne se fait. Et qu'il y a de l'argent qui sont...
Ce que vous dites là, c'est dans la malgouvernance, dans la mauvaise gestion.
La mauvaise gestion.
Monsieur Joseph Bindoumi, hein, des régimes se sont succédés, d'autres sont élus démocratiquement, d'autres ont fait des putsch. La gestion du pays, c'est le peuple, hein, c'est différentes couches qui ont participé à la gestion du pays, mais cette malgouvernance semble que c'est vraiment déjà, c'est ancré, c'est implanté, mais aujourd'hui, comment faire de sorte que pour relever le défi?
Quand vous nous posez un problème comme celui que nous débattons, vous nous avez demandé avec beaucoup de précision, qu'est-ce que le Centrafricain ressent aujourd'hui de ses 60 années d'indépendance? La réponse, c'est où nous pensons que notre situation s'est améliorée. Et donc nous disons que avec 60 ans d'indépendance, les choses se sont bien passées. où nous constatons que, malgré nos 60 années, la situation du Centrafricain ne s'est pas améliorée. Voilà, voilà, je crois que c'est là qu'il faut regarder les débats. Et puis si nous prenons ça, nous mettons sur tel président, nous mettons sur tel autre, mais ça c'est des causes que nous recherchons. Mais avant d'arriver à ces causes-là, nous disons clairement que à la date d'aujourd'hui, vous posez la question à n'importe quel Centrafricain, de l'intérieur comme de l'extérieur, il vous dira que la situation du citoyen centrafricain, 60 ans d'indépendance, ne s'est pas améliorée. Voilà ma position depuis le début, elle est celle-là. Maintenant, je veux que quand nous nous trouvons ici pour débattre des questions importantes, sortons des classements, des partis, de nos associations, pour que nous puissions réfléchir plus haut, pour regarder où est-ce que nous venons et où est-ce que nous voulons aller. Et vous comprenez que nous avons un problème. Aujourd'hui, la République centrafricaine n'a aucun élément fédérateur. Vous imaginez, le nom de notre pays ne repose sur rien. Quand Bouganda l'avait conçu, Bouganda voulait une république qui regroupait des États d'Afrique centrale. République des États d'Afrique centrale qui prenait le Congo, qui prenait la République centrafricaine, qui prenait le Gabon, le Tchad, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais nous continuons de dire que République centrafricaine correspond à 623 000 kilomètres carrés, alors qu'en fait, ça ne correspondait pas à ça au moment de sa conception. Et le problème aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que nous allons continuer toujours de garder un nom qui n'a pas d'élément matériel sur nous, puisque quand vous mettez République centrafricaine, il n'y a pas moyen de limiter République centrafricaine sur 623 000 km². Et donc il faut qu'on réfléchisse clairement ensemble sur une telle question. 623 000 km² de République centrafricaine. Et même quand on s'appelait Oubangui, on avait quand même la possibilité de limiter par l'autre fleuve Oubangui. On avait le Chari qui pouvait nous dire le lot là, ça se trouve à cet endroit de l'Afrique. On a ça comme élément fédéral. Nous n'avons aucun élément fédérateur parce que quand on fait le calcul, vous prenez les cinq verbes du Missan. Je crois que vous les avez en tête. Vous prenez les cinq verbes du Missan. Les cinq verbes du Missan disent quoi?
De Bouganda.
De Bouganda. Les cinq verbes du Missan disent nourrir. Aujourd'hui, le Centrafricain ne mange pas à sa faim. On est d'accord avec nous? Soigner, nous évacuons le plus nombre de personnes pour aller se soigner à l'extérieur. L'argent que nous avons dépensé pour les évacuations sanitaires était de nature à nous construire des hôpitaux hors classe. Bon, vous avez instruire. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'années scolaires. Vous voyez que nous n'avons pas, même avant le coronavirus, on n'avait pas d'année scolaire. Il y avait des rentrées en janvier, des rentrées ici, des rentrées là. En ce qui concerne le logement, le programme de logement, vraiment, quand vous voyez Bangui, vous sentez que nous ne sommes pas logés. Et quand vous allez à l'aéroport, vous allez voir sur des stands, des tables, des gens qui disent 100 francs, 100 francs, 200 francs, 200 francs, pour nous vendre des flipperies après 60 ans d'indépendance. Aujourd'hui, maintenant, le problème que moi je pose sur cette table, quel est le mot, s'il est prononcé, mobilise les Centrafricains? Vous savez, au Cameroun, quand vous dites football, tous les Camerounais du nord au sud, ils taisent leurs contradictions, ils parlent de leur pays. Mais quand vous prenez les Sénégalais, ils ont leur philosophie de Sénégalais, qu'ils font taire toutes les divergences au moment où ils ont cet élément fondateur, cet élément fédérateur qui attire l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, c'est-à-dire qu'on attend 60 ans pour faire le débat que nous allons faire en 30-40 minutes, mais ça, c'est des questions que les Béninois ont discutées à l'occasion de la conférence nationale. C'est des questions que les Burkinabés ont discutées. Et le Congo est allé plus loin avec les trois journées glorieuses de 13, 14 et 15 août, où ils ont fait leur révolution. Ils sont devenus pays socialiste, scientifique. Ils ont changé les habitudes tirées de la colonisation. Et puis après, ils se sont reconstitués comme de véritables Congolais qui avancent aujourd'hui. Bon, donc nous, je crois que si on regarde le débat en termes de qui a fait quoi, on risque de tourner en rond pour donner des responsabilités sans s'occuper des questions qui peuvent nous aider à avancer en dehors de ce qui a échoué. Moi, voilà.
Merci, monsieur Joseph Benoumé. Effectivement, monsieur Fidel Ngwandika, que pensez-vous aujourd'hui de la traduction en réalité des cinq verbes du Messan du président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Bouganda?
Monsieur Bindoumé vient de vous mettre ça à l'oreille, les cinq verbes du Messan. Mais le Messan a été au pouvoir pendant 6 ans avec Dako. On a conjugué ces cinq verbes pendant 14 ans avec Bokassa. Est-ce qu'il a conjugué les cinq verbes? Tout le monde dit cinq verbes du Messan, cinq verbes du Bouganda. Alors allez, on va faire la fête de Bouganda. Bouganda est mort pour ce pays. Il y a combien de partis mécènes aujourd'hui en Centrafrique? Il y a mécènes Boganda, il y a mécènes je ne sais pas qui. Il y a trois partis fractionnés de mécènes. Pourquoi le peuple centrafricain, uni dans l'unité, dans la dignité et le travail, ne vote pas pour le candidat du mécène, pour que ce candidat-là puisse permettre la conjugaison de ces cinq verbes? Non, j'ai comme l'impression que les compatriotes qui m'entourent autour de ce sujet-là ne maîtrisent pas ce que nous disons bilan de 60 ans. Nous vivons...
Les 60 ans, ce n'est pas le régime actuel.
Je ne parle pas du régime.
C'est de donner votre avis objectif sur le vécu, le quotidien centrafricain comparé à ce qui était durant les premières années de l'indépendance.
Mais je vous dis que nous vivons au présent. Mademoiselle, présidente du CNJ, vit au présent.
Mais qu'est-ce qui a avancé dans le quotidien du peuple centrafricain?
Si vous me laissez, je vais vous répondre. Et donc, si nous vivons au présent, on parle du présent. Parce que les 60 ans, c'est aujourd'hui, ce n'est pas hier. Hein. On avait parlé de 50 ans, il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien que la guerre pendant les 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de 40 ans, il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait à Patassé? Que la guerre. Maintenant, nous sommes en 2020. Il y a des vérités de guerre aujourd'hui.
Non, n'intervenez pas.
Cette guerre, monsieur Bindoumi, nous, Centrafricains, nous l'avons hérité. Ah. Ça n'a pas été un accident. C'est une échéance. Ça vient d'où? Ça vient de loin. Alors, je dis, quand vous dites qu'aujourd'hui, en Centrafrique, on vit mal, quand on voit au Burkina Faso, quand on voit au Sénégal, vous parlez du Congo, mais dans aucun pays du monde,
donc pour vous aujourd'hui, le Centrafricain vit très bien.
Dans aucun pays du monde, monsieur le journaliste, vous ne trouverez pas un seul peuple qui dise que je vis bien. Ça n'existe pas. La France, c'est à 200 et quelques années d'indépendance. Les Français pleurent. Il y a eu des gilets jaunes qui disent qu'on ne mange pas, on ne vit pas. Ils cassent les vitres, ils cassent les véhicules. Hein, parce qu'ils ne vivent pas. Aux États-Unis, ça ne marche pas. Au Japon, ce n'est pas ça. En Chine, c'est la dictature. Tout le monde pleure. Au présent, vous ne trouverez pas un seul peuple qui se réjouit de sa vie.
Mais
vous
comparez le niveau de vie du peuple centrafricain aux autres niveaux de vie.
Vous voyez des images sur Facebook, vous dites qu'il y avait les lumières. Mais le centre-ville, les Centrafricains vivent au centre-ville. Les Centrafricains vivent dans les quartiers. C'est aujourd'hui, en 2020, qu'il y a des lumières dans les quartiers. Faites une prise de vue de la République centrafricaine la nuit et vous comparez des quartiers hein, et vous comparez à une prise de vue de 1960 dans les quartiers périphériques. Vous allez voir que c'est du ténèbre avant. Donc il faut reconnaître, je vous le dis, que le pays avance. Mais au présent, les gens ne peuvent pas dire que je mange trois fois par jour, je loge dans une maison à étage ou dans une belle villa. Si les belles villas, c'est au centre-ville. C'est des villas administratives. C'est des hôtels où il faut payer pour aller dormir. Okay. Donc maintenant, conjuguer les cinq verbes, c'est une philosophie qui est en marche aujourd'hui et que je pense, dans encore 60 ans plus tard, peut-être les gens vivront encore mieux qu'aujourd'hui.
D'accord, merci. C'est votre point de vue, M. Fimenzo Pongele. Quelle évaluation faites-vous aujourd'hui du niveau de vie sociale du travailleur centrafricain? Moi, je pense
que la situation, elle est calamiteuse. Calamiteuse pourquoi? Parce que vous savez qu'il faut situer les choses dans leur contexte. 10 ans, 20 ans après l'indépendance, le centrafricain vivait bien. Le centrafricain pouvait manger trois fois. Parce qu'il s'agit de ça, se nourrir. Le centrafricain pouvait se loger. Je le dis pourquoi. Le centrafricain, je prends un exemple d'un travailleur qui à l'époque, 30 années, il avait 80 000. Il pouvait bien se nourrir parce que la grande cuvette de manioc était à 750. Aujourd'hui, ce n'est pas la grande, mais c'est transformé en une petite cuvette à 4 000. Il a gardé le même salaire. Le centrafricain pouvait se loger parce qu'avec ses 80 000, il pouvait acheter un sac de ciment qui coûtait 1000 francs. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, il est dans l'impossibilité de se loger parce qu'un sac de ciment coûte 10 000. Hier, le travailleur centrafricain, il avait ce qu'on appelle la protection sociale. Je dis ça sous le contrôle des autres. Un fonctionnaire arrivé à l'hôpital, il est pris en charge. Ses frais sont remboursés à 80%. Aujourd'hui, il n'y a que les Antilles, C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup d'argent, qui voyagent à l'extérieur, ils ne peuvent pas se soigner à l'extérieur. Alors que le pauvre centrafricain lambda, le travailleur, ne peut pas se soigner. Donc tout cela, nous le disons, quand on fait la comparaison, les gens, moi je le dis, et ça je dis peut-être encore des survivants, les fonctionnaires, ils achetaient leurs habits, pas dans les friperies, comme on le dit les usagers, les termes, dans les friperies. Ils achetaient à Lady Boutique, à Bata, ils se chaussaient à Bata. Ils prenaient des bons vins, c'est pas le Kangoya ou c'est pas les Mbako aujourd'hui que les fonctionnaires prenaient. Donc globalement, si on fait la comparaison, on est en train de vivre la précarité. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quoi? C'est une question de gouvernance. Je vais vous dire un exemple simple. Monsieur le procureur, j'assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle la cour criminelle. Mais la cour criminelle, quels sont les genres de prisonniers qu'on retrouve là-bas? C'est les criminels de sang. Mais à l'époque de Bokassa, c'est les criminels économiques. Les détourneurs sont aussi traduits à la cour criminelle. Aujourd'hui, dites-moi, très exactement, il y a combien de criminels économiques qui sont en Garaba? L'État dépense beaucoup d'argent pour mettre les institutions, les organes de contrôle, comme l'inspection générale d'État, comme l'inspection générale des finances, et aujourd'hui la haute autorité, la bonne gouvernance. Pour quel résultat? Beaucoup d'argent, on attribue à ces fonctionnaires, aucun résultat. Les rapports de ces institutions-là sont où? Dans quel pays du monde où il n'y a pas de criminels économiques en prison? Dans quel pays du monde? Dites-moi combien sont là-bas. Alors que nous sommes au courant qu'il y a des scandales partout, à la mairie. Donc c'est une question de gouvernance. Une question de, je finis, une question de redistribution des richesses. Le ministre, le député avait 250 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, il a plus de 1 million et quelques. C'est moi, je pense que l'injustice sociale est érigée en système de gouvernance. C'est ça la véritable cause de notre souffrance. Donc, le président Touadéra, très rapidement, comment je le dis, quand il a accédé au pouvoir, il a laissé parler son cœur. Il a très rapidement diagnostiqué le mal. Il a dit, c'est la rupture, et ça on dit, la rupture avec les pratiques du passé qu'on a défini aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est son entourage qui a fait que maintenant, sa déclaration est devenue un vain mot.
D'accord, on parle des 60 ans de l'indépendance de la République centrafricaine, également l'éducation, la formation. On dit souvent que la jeunesse est l'avenir de demain. Madame Pamela Audrey-Durand, en tant que représentante de la jeunesse centrafricaine, quelle qualité de formation ou d'éducation voyez-vous aujourd'hui? Quelle formation ou quelle éducation aujourd'hui il faut pour la jeunesse centrafricaine pour qu'elle soit en mesure demain de relever le défi, ce qui lui attend?
Merci. Je l'ai déjà dit tout à l'heure ici sur le plateau. Aujourd'hui, la question de l'éducation, déjà en termes d'infrastructures, et nous connaissons déjà l'État, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais également en termes de qualité de formation qu'on donne à la jeunesse centrafricaine d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on nous donne la formation générale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir dans des domaines aussi banals, un simple plombier, vous savez, aujourd'hui, les ONG qui sont là, s'ils veulent recruter des gens, puisqu'on n'a pas une formation professionnelle adaptée et adéquate à la situation de notre pays, nous sommes au 21e siècle. Mais aujourd'hui, quand on veut recruter dans des domaines précis, comme je l'ai dit, certaines ONG ont été obligées de recruter des compétences étrangères. On fait venir des Camerounais, des Congolais, ainsi de suite, pour venir occuper un certain nombre de postes qui devraient revenir aux jeunes centrafricains. Tout simplement parce qu'il y a un manque de bonne politique au niveau de la formation qu'on donne aux jeunes. Et encore, quel genre de formation aussi? La corruption bat son plein au niveau de la formation aujourd'hui. On ne forme que pour les diplômes et non pour avoir des compétences requises afin que ces jeunes qui sont formés puissent véritablement contribuer au développement de leur pays. Et parlons également de l'emploi. La chômage aujourd'hui fait qu'on est en train de taxer les jeunes aujourd'hui. Ils sont manipulés, ils sont ceci. Mais ces jeunes sont contraints par instinct de survie parce que s'ils n'ont pas de quoi, ne serait-ce que pour mettre sous la lampe, on a parlé ici, selon les cinq verbes de Boganda, se nourrir. S'ils n'ont pas cela,
aujourd'hui, mais ils sont livrés, ils deviennent des proies faciles, des ennemis de la paix, qui les oblige à faire des choses indécentes pour pouvoir avoir de quoi à survivre. Donc, il y a un problème de chômage, il y a un problème d'orientation après les formations qu'on donne à la jeunesse centrafricaine. Si bien qu'aujourd'hui, même en termes de politique entrepreneuriale, des politiques aujourd'hui, en principe dans d'autres États, en principe, le MIS, malheureusement, n'aime pas qu'on puisse donner des exemples, mais les pays qui nous entourent aujourd'hui ont des politiques qui permettent à ce que les jeunes, qu'on crée même des banques, par exemple, d'investissement, qui permettent aux jeunes entrepreneurs qui veulent développer des initiatives dans ce sens-là, qui puissent avoir accès facilement à des crédits pour permettre à ce qu'ils puissent investir et faire développer le pays. Mais aujourd'hui, malheureusement, on fait lit plutôt aux étrangers, même ceux qui veulent entreprendre. Janvier, c'est
rapidement,
oui. Oui. On l'a dit tout à l'heure ici, s'il vous plaît, respectez le temps que vous donnez à chaque intervenant, je vous en prie. Donc, en parlant de ça, aujourd'hui, la situation, elle est catastrophique. On voit que la jeunesse, elle est sacrifiée. Et vous voyez, ça devient un cycle infernal. Ça devient de la frustration. Et ceux qui sont aujourd'hui sacrifiés, ce n'est que normal ce que vous voyez et ce qu'on vit aujourd'hui. Ça devient de l'extrémisme violent puisque la frustration est là.
Merci beaucoup, M. Joseph Benoumi. L'éducation, autrefois, hein, c'était avec des coopérants, des étrangers qui venaient enseigner. Mais le niveau de l'éducation, de la formation en République centrafricaine, c'était au top. Mais aujourd'hui, comment comparez-vous le niveau de l'éducation aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup plus de baisse de niveau dans le système éducatif centrafricain?
Je ne peux pas répondre à cette question avec trop de précision. Après 60 ans, je voudrais simplement relever que moi, j'ai fait l'école primaire en République centrafricaine, j'ai fait l'université ici, avant d'aller continuer ailleurs, mais que je suis surpris. Je suis surpris, 60 ans après, que nous n'ayons qu'une seule université à Bangui, qu'il n'y ait pas d'université à Berberati, à Bambari, à Bangassou, que notre université n'ait pas produit d'autres écoles supérieures de formation. Quand vous regardez au Congo, quand vous regardez au Cameroun, quand vous regardez même maintenant au Tchad, qui était derrière nous à l'époque, aujourd'hui nous sommes pratiquement derrière ces gens. Et puis quand vous voyez notre enseignement, je vais vous donner des exemples salissants. Vous savez, quand on proclame le bac en République centrafricaine, on commence par proclamer les échoués. On proclame ceux qui ont échoué au bac, c'est eux qu'on proclame avant. On dit sont admissibles à passer le deuxième groupe, les personnes dont les noms suivent. Et puis, à Bracambran, on donne les échoués pendant que celui qui est admis, lui, attend. Et on a aussi des résultats de bac où on se félicite d'avoir eu 11% d'admis au baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Alors que dans d'autres pays, si vous êtes ministre de l'Éducation nationale et que vous avez 11% d'admis, eh bien, vous déposez votre tablier. Vous dites, moi, je n'ai pas conduit l'éducation nationale au niveau où je devais l'avoir conduit. Et puis, aujourd'hui, vous avez, sur le pan de la République centrafricaine, beaucoup de villes qui ne connaissent pas école. Vous arrivez à Ouada, vous arrivez à Ouada Djalé, vous arrivez à même des grandes villes, des sous-préfectures, où des écoles n'ont qu'un seul mètre pour 200, 300, 400 élèves. Et donc, nous avons des problèmes du point de vue éducatif. Et je crois que le débat que nous devons mener ici, c'est lorsque nous nous retrouvons comme ça, 60 ans après l'indépendance, nous devons aller à la solution. Qu'est-ce que nous devons faire à partir de maintenant, avec les maigres moyens de l'État, pour que nous puissions reconstruire notre éducation nationale, rétablir nos écoles de formation? Vous savez, on avait des écoles de formation à Wakombo, à l'ENES, on avait à Grimari, on avait l'école d'élevage de Boire. Tout ça là, c'est fermé. C'est fermé. On n'a plus d'école d'agriculture, on n'a plus d'école de formation pour que notre pays puisse un jour penser qu'après les 60 ans, lorsque nous irons à 65 ans, que les Centrafricains puissent voir quand même quelque chose changer dans l'histoire de notre pays. Et donc, moi, je crois que le débat, c'est ça. Le débat, ce n'est pas...
C'est la question qui reste posée. Qu'est-ce qui doit aujourd'hui être fait pour qu'après ces 60 ans, la République centrafricaine ne puisse pas encore régresser, rester dans l'état actuel, mais progresser à l'avant dans tous les plans. Je vais parler sur le plan social, économique, et sur le plan également politique. D'abord avec vous, monsieur.
Je suis d'accord avec vous, puisque moi, je suis parti du principe que nous sommes unanimes pour reconnaître que notre niveau aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, n'est pas celui qu'on devait avoir. Maintenant que nous savons que ce n'est pas le bon, Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette situation s'améliore? Je crois que c'est la question que nous tous, nous devons répondre ici, sans regarder aucun régime.
Oui.
Alors, les questions que nous devons répondre, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. C'est-à-dire, la bonne gouvernance, c'est de faire en sorte que, si le pouvoir est du peuple, hein, qu'il ait un résultat favorable au peuple, pour le bien du peuple. Il y a ça. Aujourd'hui, nous fermons les yeux, quand j'écoute les discours sur la table, nous fermons les yeux que des gens sont en train de tuer. On est en train d'aller vers un processus électoral. On a tué un agent à Ipi hier. Et donc, vous comprenez que le processus électoral qui devrait nous amener à des élections libres et crédibles pour que les choses que nous critiquons ici, par exemple les éléments au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, au niveau de la bonne gouvernance, au niveau des abus des biens, de l'État, que les nouvelles équipes qui arrivent puissent être capables de changer. Moi, je suis d'accord avec lui qui dit que effectivement nos cours criminels en République centrafricaine aujourd'hui ne jugent plus les détenteurs de données publiques. Mais moi, je voudrais le rassurer. Si à un moment donné, vous n'avez pas entendu les détournements de données publiques passer à des sessions criminelles, nous avons fait de ça une préoccupation. Donc, les crimes se prescrivent pendant 10 ans. Il y a de fortes chances que certains dossiers de détournement qui existent aujourd'hui seront appelés d'un moment à l'autre devant la cour criminelle. Donc, c'est le souhait de tout le monde. Je pense que mon frère a raison. Si on amène des détourneurs devant la cour criminelle et qu'ils sont non seulement poursuivis, mais leurs biens saisis, et au profit de l'État, mais les autres qui ont envie de faire comme eux, ils vont arrêter. Et puis le pays va évoluer dans le bon sens.
D'accord. Vos propositions, nous tendons vers la fin de cette émission. Malheureusement, il y a beaucoup à dire. Madame Pamela Audrey de Rome, en tant que leader représentante de la jeunesse centrafricaine, qu'est-ce qui doit aujourd'hui être fait du côté de la jeunesse, hein, pour qu'elle également puisse prendre part activement dans le développement de la République centrafricaine?
Ce qui doit être fait, je pense que c'est de mettre une action particulière sur la jeunesse centrafricaine à travers tout le programme du gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, ici, vous pouvez analyser le budget qui est alloué au ministère de la jeunesse, les budgets affectés au ministère de l'éducation. Moi, je crois que c'est insulter la jeunesse centrafricaine, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Vous savez, et avec ce genre de situation, comment est-ce qu'on veut voir les choses améliorer? Comment est-ce qu'on veut voir l'éducation avancer pendant qu'il y a eu très peu de budget qui est injecté là? Et pourtant, comme on le dit, je crois que le ministre conseiller est mieux placé, il pourra vous le dire tout à l'heure. Comme on aime bien le dire, si on veut voir un pays avancer, ce n'est qu'avec la jeunesse. Puisque cette jeunesse-là constitue la majeure partie de la population centrafricaine, plus de 70%. Alors c'est pour cela, si on veut voir le pays se développer, si on veut voir le pays avancer et émerger, mais il faut investir dans cette jeunesse-là. Donc voilà ce que moi j'attends, qu'on puisse les associer également à la table des discussions et des prises de décisions. C'est ce que nous attendons pour que les choses améliorent.
Ok, merci. Messieurs Firmenzo Pongele, vous représentez les travailleurs centrafricains, vous êtes du groupement syndical des travailleurs de Centrafrique. Qu'est-ce qui doit aujourd'hui être fait pour donner un coup de pouce, hein, aux travailleurs centrafricains pour qu'ils puissent vivre de manière aisée dans leur ménage?
Non, moi je pense que c'est un problème global. En amont, je pense qu'il faut asseoir la gouvernance administrative, la gouvernance économique, la gouvernance financière. Parce que c'est la gouvernance qui va nous permettre de sortir de ce pays-là. Je prends par exemple au hasard, je suis en face de la présidente de la jeunesse. La gouvernance administrative, il faut respecter les lois, il faut respecter les textes. Mais quand on continue à intégrer les gens en foulant en pied ce qu'on appelle le statut général de la fonction publique, qui dit que, par exemple, ceux qui sont des généralistes doivent passer des tests. Alors on foule au pied, on fait autre chose. La gouvernance économique et financière, il faut respecter aussi les lois. Quand la loi est dite, il faut l'appliquer. La loi a dit... il faut payer l'identité à 4 500. C'est la loi, il faut respecter. Mais dès lors qu'on est hors la loi, on piétine la gouvernance, on piétine les textes, moi je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Donc moi je pense qu'il faut asseoir la gouvernance à tous les niveaux, administratif, économique et financier.
Asseoir la gouvernance, respecter les textes. Monsieur Fidel Ngwandika, vos derniers mots avant de clôturer cette émission. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui améliorer du nouveau des leaders ou des régimes, de ceux qui gouvernent le pays pour donner une vie aisée à la population centrafricaine?
Mais je vous ai dit d'entrée de jeu que le problème de la République centrafricaine est celui du leadership qui est déficient. aucun des anciens présidents qui ont présidé à la destinée de la République centrafricaine n'a respecté ni la justice, ni le bien commun que Madame présidente de la jeunesse a fait allusion ici. Pour nourrir les gens, pour construire des universités, pour construire des hôpitaux, des routes, des infrastructures publiques, il faut de l'argent. Et il faut que ces dirigeants-là ont une vision du bien commun, du bien public, pour que le partage soit équitable. Mais quand vous avez des présidents de la République qui signent des contrats miniers, notre uranium, notre pétrole, nos diamants, nos richesses naturelles, qui doivent nous fournir des milliards de dollars pour investir, j'emprunte le mot à M. Zopengele, pour investir dans la République centrafricaine, ici des contrats à la dupe, ici des contrats sous manteau. C'est eux qui reçoivent les dividendes et jamais ces pétroles ne seront exploités, jamais ces uraniums-là ne seront exploités, jamais notre or, nos dames ne porteront jamais de l'or à leur oreille, et, ni du diamant. C'est parce que ces dirigeants-là, ils ne voient que leur poche et la poche de leur famille. C'est des dictateurs. Donc il nous faudra une nouvelle génération d'hommes politiques qui pensent que nous sommes assis sur une richesse incommensurable et que la bonne gestion, la bonne gouvernance se met en exergue pour que le Centrafricain bénéficie de ces richesses naturelles. Voilà ce que je peux dire.
Okay,
et
merci.
C'est ce que je qualifie du nouvel ordre centrafricain.
Merci. Une nouvelle génération d'hommes politiques et appliquer la bonne gouvernance pour que le Centrafricain puisse bénéficier de la richesse du pays. Et c'est la fin de ce débat. L'émission Patara sur Radio Ndekeluka. On est vraiment pris par le temps. Pourtant, il y avait encore beaucoup de choses à se dire. Je rappelle que nous avons reçu autour de cette table M. Fidèle Ngwandika, qui est ministre conseiller spécial du président de la République. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Nous avons également reçu M. Joseph Bindoumi, président de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme. Vous étiez également ministre de la Défense nationale à l'époque de la transition. M. Joseph Bindoumi, merci d'être venu.
Merci.
Monsieur Firmin Zopongele, secrétaire général du groupement syndical des travailleurs de Centrafrique, JSTC. Monsieur Firmin Zopongele,
merci.
Et également Madame Pamela Audrey-Dirom, qui est la présidente du Conseil national de la jeunesse centrafricaine. Merci d'être venu dans l'émission Patara.
Merci à vous.
Et à la technique, c'était le service de David Bema et de Serge Yadendi. Au micro, je suis Rodrigue Leroy-Binga. J'ai bénéficié de l'appui de Claire Ndombé-Assamba et Stéphane Flemalé. Patara, c'est encore à retrouver la semaine prochaine avec une autre thématique.